Ce soir, on m'a demandé de vous parler de la parole de Dieu au sein de votre parcours, de notre parcours sur l'école d'oraison. Et avant de parler de la parole de Dieu elle-même, je voudrais donc situer cette parole de Dieu dans le parcours de l'école d'oraison, et puis de situer la parole de Dieu par rapport aux autres manières que Dieu peut avoir de nous parler. Alors, l'école d'oraison à laquelle vous venez, pour le rappeler, donc, c'est une école pour apprendre cette rencontre d'amour, de vous mettre en présence, comme on essaie de le faire chaque soirée de cette école, en présence de celui que l'on aime, que nous aimons et qui nous aime. Et je trouve ça bien de nous rappeler que c'est ce qu'on va faire durant toute l'éternité. On va vivre en compagnie de ce Dieu qui nous aime. Donc c'est une bonne idée de se mettre à l'école pendant la vie sur la terre de ce qu'on va faire pendant toute l'éternité. Donc Jésus veut tisser une relation d'amour avec chacun de nous, chacun de vous. Et il est bon de vous rappeler que nous sommes tous différents et uniques. Donc cette relation que Jésus veut vivre avec vous, elle est unique aussi. Et si nous ne la vivons pas, mais personne ne peut le faire à notre place. Et c'est une relation d'amour que Jésus ne pourra pas vivre. Et donc, on sent votre désir, puisque vous êtes là encore ce soir, cette troisième soirée, votre désir de vivre cette belle expérience de l'oraison, de vous mettre à l'école, pour apprendre à vivre ce moment de présence, de dialogue d'amour. Je relisais ces jours-ci une bande dessinée sur le curé d'Ars qui me rappelait un petit épisode que vous connaissez sûrement. Il y avait un paroissien qui venait souvent dans l'église. Et on était un peu intrigués de ce qu'il faisait à rester seul dans l'église paroissiale, et il avait répondu: je l'avise et il m'avise. Et ça avait inspiré le curé d'Ars pour évoquer ce qu'on peut faire quand on va dans une église. Donc, vous aimez le Seigneur et le Seigneur vous aime. Et donc, avant de parler de la parole, vous voyez, de Dieu, tout simplement, ce qui est bon, c'est d'être ensemble. Quand on aime ses amis, finalement, ou son amoureux ou son amoureuse, ben, la première chose qui est importante, c'est d'être ensemble. Et on sait bien que quand on s'aime, on n'a pas forcément besoin de se parler. D'ailleurs, la semaine dernière, Monseigneur de Germain nous a rappelé qu'une des choses les plus nécessaires et les plus difficiles dans l'oraison, c'était d'établir le silence. Pas tant le silence extérieur, car au fond, il peut même arriver qu'on soit dans un lieu bruyant, mais que notre âme soit dans un silence intérieur. Mais ce qui est important, justement, c'est ce silence intérieur. Donc, ce qui est d'abord important, c'est d'être présent. Il est là, et c'est souvent moi qui suis absent. Donc, le premier effort à faire, c'est celui d'être présent à cette personne aimée et d'établir le silence. Donc, ne pas d'abord parler, mais se taire. Pour veiller à une chose essentielle à l'oraison, qui est le décentrement de soi-même. Être en présence du Seigneur. Et c'est une des choses les plus difficiles, en fait, dans toute notre vie, et particulièrement dans l'oraison. Mais une fois qu'on a franchi un peu ces étapes préliminaires, à ce moment-là, oui, on peut commencer à parler à notre ami, et plus précisément d'abord à l'écouter, lui. Dieu est là, il me parle. 1 Samuel 3, la vocation de Samuel, où ce jeune homme, dans le temple, s'éveille autour de ces mots que lui apprend le prêtre Élie. Quand il entend cette voix, « Tu répondras, lui dit Élie, parle Seigneur, ton serviteur écoute. » On peut penser aussi à l'épisode de Jésus chez Marthe et Marie. Marie est au pied du Seigneur et elle écoute le Seigneur. Elle l'écoute parler. Jésus dira à Marthe, « Marie a choisi la meilleure part. » Et donc cette part, c'est l'écoute. de notre Seigneur. Donc, je trouvais ça important de nous dire ça au début de notre propos sur la parole de Dieu, pour ne pas penser que l'oraison serait une affaire d'étude de la Bible, parce que ce n'est pas d'abord dans cela dont il est question, ni même une méditation de la Bible, c'est d'abord une rencontre d'amour dans laquelle, effectivement, la parole de Dieu va avoir une grande importance. Mais je me rends compte qu'il était important de faire ce préavis, parce qu'on peut même assez souvent utiliser la parole de Dieu pour s'écouter soi-même, pour faire dire à la parole de Dieu ce qu'on a envie d'entendre. Et le quiproquo était même très présent du temps de Jésus, puisque les scribes et les docteurs de la loi, qui connaissaient la Bible par cœur, n'ont pas su reconnaître le Verbe fait chair qui était devant eux. Donc ce n'est pas quelque chose d'anodin, c'est vraiment possible de connaître par cœur la Bible et de ne pas faire attention à la présence de Dieu, de ne pas le reconnaître. Le deuxième point que je voulais vous partager ce soir, c'est que l'Écriture n'est pas le seul moyen par lequel Dieu nous parle. Et je voudrais que nous nous rendions compte que la parole de Dieu écrite, elle s'insère dans tout un univers, en fait, toute une manière que Dieu a de nous parler. Je suis sûr qu'aujourd'hui, Dieu vous a parlé. Peut-être par des événements de votre journée, des personnes que vous avez rencontrées, peut-être votre voisine. Sans le savoir, elle vous a peut-être dit quelque chose dont Dieu s'est servi pour vous parler. Peut-être un livre que vous avez lu. Je connais quelqu'un qui a découvert Dieu en lisant la biographie du professeur Lejeune. Elle s'est convertie. Peut-être en contemplant une œuvre d'art. Thérèse d'Avila a été bouleversée, ça a été sa seconde conversion, en contemplant un Christ à la colonne dans son couvent. Je connais même quelqu'un qui a été foudroyé par l'amour de Dieu en regardant une émission de télévision dans laquelle il y avait un prédicateur qui a fondé une communauté et en écoutant cet homme parler, il a été complètement envahi de l'Esprit Saint et ça a été la conversion de sa vie. Donc, vous voyez, Dieu a des tas de manières de nous parler, aussi par l'Église, par les enseignements de l'Église, par les enseignements du magistère ou du pape, ou peut-être certaines homélies. Vous voyez, il y a une multitude de manières. Dieu peut se servir de beaucoup de choses. Vous savez que les pères de l'Église disent, il y a le livre des Écritures, mais il y a aussi le livre de la nature. En regardant la nature, Dieu me parle, puisque c'est Dieu qui a créé la nature, je peux découvrir le Créateur. Mais il est vrai que au bout de tout cela, la parole de Dieu la plus aboutie, la dernière parole de Dieu, c'est son Fils lui-même. Tout ce que Dieu a voulu dire aux hommes est contenu en son Fils Jésus. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Saint Jean de la Croix a écrit: Dieu n'a dit qu'une parole, et il l'a dit toujours en éternel silence, puisque dans l'éternité, la deuxième personne de la Trinité, c'est le Verbe, c'est la parole de Dieu. Donc, vous voyez, c'est important de replacer la Bible, la parole de Dieu écrite, dans tout ce contexte. Dieu nous parle aussi par les événements et justement, ce qui va se produire dans la vie du croyant, c'est cette concordance entre les événements de nos vies et la parole de Dieu dans les Écritures. C'est une expérience fondamentale qu'ont faite les premiers chrétiens, et ça nous est raconté de manière tout à fait vraiment appropriée dans le dernier chapitre de Saint Luc, dans un épisode que vous connaissez bien, qui sont les disciples d'Emmaüs. Ils viennent de vivre un événement traumatisant. Ils ont vu Jésus arrêté, bafoué, flagellé, crucifié, mort. Cet événement, c'est un tsunami dans leur vie. En partant de Jérusalem, ils sont là, tout tristes, devant des événements qu'ils ne peuvent pas comprendre. Et quelqu'un vient marcher à leur côté. Et vous savez, bien sûr, ce que fait Jésus, il les écoute d'abord. Dire, mettre des mots, il pose un peu cette question anodine, mais de quels événements parlez-vous? Et il leur raconte, il lui raconte ce qu'ils ont vécu. Et là, qu'est-ce que fait Jésus? Il leur fait découvrir que tout ça s'était marqué dans les Écritures, en partant de Moïse, des prophètes et des psaumes. Il leur montra que tout ça s'était marqué dans les Écritures. Donc ça veut dire quelque chose de très important, c'est que, si vous voulez, la langue, le dictionnaire, pour comprendre le drame du monde et le drame de nos vies, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu, vivante. Mais quand je lis l'Écriture, je découvre que Dieu est au plus profond des choses et que celui qui me révèle le sens des événements. Et donc, voyez comment tout ça s'agence, c'est-à-dire que la vie du Christ a permis de comprendre les prophéties et les prophéties permettent de comprendre les événements de la vie du Christ. Puisque Isaïe 53, qu'on va entendre en première lecture le Vendredi Saint, a prophétisé 6 siècles avant le Christ. Ce sont nos péchés qu'il portait. C'est pour nos fautes qu'il a été transpercé. Ils ont regardé celui qu'ils ont transpercé. Alors, vous voyez comment on peut découvrir que cette parole, elle est inspirée. Depuis donc le début de l'histoire de ce peuple, hein, Dieu a choisi un peuple, le peuple hébreu, dont toute l'histoire va culminer dans la personne de Jésus. Eh bien, on se pose parfois la question, mais comment se fait-il que Dieu choisisse un peuple? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Eh bien, on a l'impression que, en vivant une histoire avec ce peuple-là, ce petit peuple hébreu, parmi toutes les grandes nations de l'époque, les pharaons de l'Égypte, Babylone, la Syrie, les Romains, les Grecs, il a choisi un petit peuple un peu indocile, à qui il a fait vivre une histoire avec plein de péripéties. Et cette histoire, elle nous est racontée dans la Bible. Et au bout de cette histoire, il y a Jésus de Nazareth qui accomplit toute cette histoire. Et donc, qu'est-ce que fait la Bible? Elle nous raconte l'histoire de ce peuple et de Jésus. Et maintenant, quand je lis cette histoire, même si je ne suis pas du peuple hébreu, en fait, je peux découvrir mon histoire. C'est ça qui est un peu magique dans la Bible, et peut-être pour ça que Dieu a voulu le vivre d'abord avec un peuple, mais toutes les péripéties de l'histoire de ce peuple qui a vécu des moments formidables, la sortie d'Égypte, l'entrée en terre promise, mais des moments d'abandon terribles, la destruction de Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ, destruction du temple, l'exil à Babylone. Et bien ça, quand je lis ça et que je viens peut-être de perdre mon travail ou perdre ma famille, ou bien quand je lis ces versets-là, qu'on retrouve dans les psaumes, bien, je peux vraiment me rendre compte que finalement ce qu'a vécu ce peuple, c'est aussi mon histoire. Vous voyez ? Donc, quand je lis les Écritures, je découvre le sens profond du drame de l'humanité et aussi de ma vie. Et donc, vraiment, pour finalement préparer cette rencontre d'amour de l'oraison, la lecture régulière de des Écritures, c'est vraiment un univers, un monde qui va pouvoir faire écho à mon monde. Il y a le monde de la Bible et il y a le monde dans lequel je vis, mon monde personnel et le monde de mon environnement, de ma famille, de ma paroisse, du monde dans lequel je vis. Et voyez, il y a un jeu d'écho qui se produit entre les deux. Alors, C'est quand même formidable, vous voyez, de redécouvrir que Dieu a parlé à l'homme. Et cette parole, elle a été mise par écrit. Elle a été orale aussi, parce que les prophètes ont d'abord prêché. Les apôtres, ils ont prêché. Mais ensuite, vous savez que la révélation est close à la mort du dernier apôtre. Que fait l'Église ? Elle rassemble les écrits des prophètes, la Torah, les évangiles, les lettres de Paul, et elle va constituer ce dépôt révélé. Et tout ce que l'Église enseigne depuis 2000 ans est contenu d'une manière ou d'une autre dans la Bible. Il n'y a aucun dogme de l'Église catholique qui ne se réfère à un passage de la Bible. Il n'y a aucun épisode de notre vie qui ne puisse pas trouver un écho dans la Bible. Dieu y a fait contenir tout ce qu'on a besoin de savoir. Et nous avons vraiment un trésor incroyable. Les deux plus grands trésors que nous avons dans l'Église, c'est la parole de Dieu et le corps du Christ. C'est vraiment des trésors incroyables. La table de la parole, la table de l'Eucharistie, nous avons tout là. Et donc, nous sommes vraiment invités à nous plonger dans une lecture passionnée de cette révélation biblique. Parce que Dieu y a fait contenir tout ce qu'il veut nous dire. Et plus je lis l'Écriture, plus j'entre dans cet univers. À partir du jour où il s'est converti, Paul Claudel n'a pas lâché sa Bible. Il a dit dans un verset, « J'habite la Bible ». Il s'est rendu compte que c'était vraiment dans la Bible qu'il trouvait son compagnon de route, de tout ce qu'il a vécu à partir de sa conversion. Thérèse de Lisieux, en son temps, à l'époque, on ne lisait pas beaucoup la Bible, il n'y avait pas beaucoup de Bible. Elle écrivait sur son carnet des passages entiers d'Isaïe. Elle dévorait les passages de la Bible qu'elle pouvait lire à certains moments, elle les recopiait et elle se nourrissait de cette parole. Elle a écrit « J'aurais voulu apprendre l'hébreu pour lire la Bible dans le texte original ». Elle était passionnée de l'écriture. Et donc voilà, Saint Jérôme, qui a passé toute sa vie donc d'homme, de prêtre, à scruter les écritures, il a traduit la Bible, comme vous le savez, de l'hébreu et du grec en latin. Il a écrit « Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ ». Alors, vraiment, c'est, si vous voulez, par rapport à l'oraison, qui est ce moment dans lequel va se passer cette rencontre d'amour avec Jésus, si je veux connaître celui que j'aime, eh bien, il faut lire sa vie. Il faut comprendre tout son univers. Un peu comme, on pourrait aussi dire, vous voyez, c'est un peu un album de famille aussi, finalement. Quand je lis l'histoire du peuple hébreu, je lis mon histoire, c'est mon histoire sainte. Et donc, je peux découvrir à chacune de ces pages une certaine manière que Dieu a de me parler. Peut-être selon mes tempéraments, selon les moments de ma vie, il y a des styles de la Bible qui me parlent le plus. Il y a des poésies dans la Bible, dans les psaumes, dans le Cantique des Cantiques. Il y a des livres historiques qui me racontent l'histoire du peuple hébreu. Il y a des livres prophétiques. Il y a toutes sortes de tonalités. Il y a autant de tonalités que dans l'âme humaine. Les 150 psaumes, ils épousent finalement toutes les variations de mon âme, de la déréliction à l'exultation, du doute à la confiance. Tout ça, eh bien, c'est exprimé dans l'Écriture sainte. Plus je m'en imprègne, plus Dieu peut se révéler à moi et plus il peut parler en moi. Alors, nous n'avons plus d'excuses, nous, pour ne pas lire la Bible, pour ne pas nous passionner pour l'Écriture. À l'époque des premiers chrétiens, c'était très très cher, un écrit. Il y avait des copistes qui recopiaient à la main. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, on peut lire toute la Bible par écrit dans nos Bibles écrites ou bien dans ces petits engins-là qui ont plein d'inconvénients mais qui ont aussi beaucoup d'atouts. On peut faire des recherches maintenant sur la Bible incroyables. En quelques clics, je peux savoir si ce mot-là que je lis dans la vie de Jésus, il est dans un passage de l'Ancien Testament. Je peux faire énormément de liens. On a des moyens extraordinaires pour redécouvrir énormément de, de potentialité de sens dans la Bible. Et moi, c'est une des raisons qui m'anime aussi dans mon travail de recherche. En découvrant tous ces liens, j'ai envie de comprendre des nouveaux liens dans la Bible et je voudrais vous partager un peu cette passion. Alors, le texte de l'Écriture, eh bien, c'est un peu comme chaque jour. Hein, ça, c'est une nourriture qu'on prend un peu régulièrement. Il ne faut pas essayer de manger tout d'un coup. Il faut y aller chaque jour pour découvrir des pages, certaines pages de la Bible. Ça peut être tout simplement la lecture du jour que je vais trouver le temps de lire avant mon oraison, soit juste avant, peut-être la veille avant de m'endormir. Et en essayant de laisser Dieu me parler à travers les mots de l'Écriture. Lire lentement le texte, le lire peut-être à haute voix, faire attention à ce que dit vraiment le texte, pas ce que j'ai l'habitude de penser que le texte dit, mais ce qui est vraiment écrit. Et il y a souvent des différences. Faites l'essai, vous allez voir. Il y a énormément d'endroits où en fait on n'avait pas fait attention à certains mots. Et parfois, c'est peut-être ces mots-là par lesquels Dieu va nous parler. Qu'est-ce que le texte dit et qu'est-ce qu'il me dit en ce moment, aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu semble vouloir me dire à travers ce texte? Si c'est une histoire, un épisode de la Bible, la sortie d'Égypte, la traversée du désert, l'entrée en terre promise, ou bien un épisode de la vie de Jésus, qui sont les personnages, qu'est-ce qui se passe, Jésus est chez des amis, Marthe et Marie, ou bien, voilà, il est au moment de son baptême, au bord du Jourdain. Quelle est la scène qui se passe? Il faut regarder l'événement, comment il nous est raconté. Parce qu'il y a quelque chose à saisir un peu d'un événement, d'une ambiance. Il faut s'imprégner du lieu, des personnages. Il y a toute une atmosphère. Et quelque chose se dégage. Oui. Parfois, c'est peut-être des enseignements de Jésus. Donc là, c'est plus dans le discours. Quelles sont les paroles de Jésus? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il veut essayer de nous transmettre à travers son enseignement? C'est aussi notre maître, nous sommes des disciples, on écoute le maître parler. Parfois, c'est vraiment dans un petit détail que Dieu va vouloir nous toucher. Donc, voilà, laissons-nous emmener dans cette invitation à nous rendre compte que Dieu a quelque chose à nous dire, comme je vous le disais, pas seulement dans l'Écriture, mais l'Écriture en résonance avec les événements de ma journée, les personnes rencontrées, ce que je ressens dans mon cœur, les grands désirs qui m'habitent, peut-être la tristesse certains jours, mais peut-être voilà, les projets qui m'animent. Tout cela est important et Dieu me parle à travers tout ça. Donc, vous voyez, je dois un peu laisser dans mon cœur résonner tout cela. Et les mots de l'Écriture vont entrer en résonance avec les événements de ma vie. Voilà, chers amis, je voudrais peut-être tout simplement nous inviter à nous rendre compte que ce moment de l'oraison avec notre ami, le Seigneur qui nous aime, eh bien, ne peut pas se vivre vraiment si je n'ai pas cette habitude quotidienne de fréquenter la lecture de cette parole de Dieu, hein, qui est devenue, qui s'est mise, enfin, c'est formidable élan de Dieu qui est venu nous parler. Certains auteurs disent la Bible, c'est une lettre d'amour que Dieu nous a écrite. Alors, je ne connais pas beaucoup d'amoureuses qui lisent pas les lettres d'amour de leur amoureux. Bon, ben, notre âme, c'est l'amoureuse. L'Église, c'est l'amoureuse. L'humanité, c'est l'amoureuse à qui Dieu a écrit cette lettre d'amour. Je pense que le jour où on va entrer dans l'au-delà, passer devant le Seigneur, il risque de nous dire « Je te l'avais écrit, je te l'avais dit. » Hein? Tous ces moments où on sera peut-être passé à côté de certaines choses, mais « Je te l'ai dit, regarde, je t'ai envoyé cette personne, je t'ai fait entendre cette parole d'évangile. Est-ce que tu as accueilli ce cadeau que je t'ai fait? Bien, puissions-nous prendre vraiment au sérieux cette parole divine que nous pouvons tenir dans nos mains et qu'il ne nous reste plus qu'à ouvrir avec patience, avec amour, avec un cœur qui écoute, comme Samuel. Voilà, écoute, parle Seigneur, ton serviteur écoute.